Au fil des mots,
une émission proposée par l'école des mots Marie Lannelongue, médiathèque de Lafitte Bigordan.
Bonjour à tous, nous retrouvons la médiathèque municipale, l'école des mots Marie Lannelongue de Lafitte avec Luc Serrano. Bonjour.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bonjour Gisèle, je suis ravi une nouvelle fois de vous retrouver pour cette émission mensuelle sur les ondes de Radio Galaxy, votre radio préférée. Avant de commencer, je tenais quand même, au nom justement de la médiathèque, l'école des mots Marie Lannelongue, d'adresser mes remerciements à toute l'équipe de la radio, et alors plus particulièrement à notre souriante et irremplaçable Gisèle, pour sa patience et tous les conseils précieux qu'elle sait nous délivrer. En effet, c'est un petit peu aussi grâce à eux tous, que nous pouvons chaque mois vous présenter nos activités, nos motivations, nos ressentis sur des livres ou des événements littéraires, et bien sûr, nos inévitables coups de cœur ou coups de gueule. Eh bien Gisèle, ce mois-ci, vous allez avoir droit aux deux.
Ah bien.
Pour ce coup de gueule, je vais vous donner mon sentiment sur des manifestations dont le succès était inversement proportionnel au nombre de véritables lecteurs recensés par les dernières statistiques en la matière. Je veux parler des salons du livre. C'est vrai qu'en ce moment, si vous regardez, il y a pléthore de ce genre de manifestations. Je suis doublement concerné, j'estime, par ce phénomène parce que j'ai deux casquettes. L'une d'auteur et l'autre d'organisateur de salon. Et je pense être suffisamment impliqué dans cela pour vous donner mon avis et mon mécontentement sur certains points. Donc j'aborderai deux points que je trouve regrettables. Le premier, il concerne la taille de ces salons. Aujourd'hui, les organisateurs, qui sont souvent des associations ou d'autres structures, qui n'ont en plus souvent, très souvent, qu'un lien lointain avec le monde du livre, mettent ce genre de manifestation en place avec le seul but d'animer, de faire venir du monde, comme ils le feraient d'ailleurs avec n'importe quelle autre activité. C'est pourquoi on entend souvent dire que le salon a été un grand succès, parce qu'il y avait 80, 100, voire encore plus d'autres auteurs présents. Quelquefois même, on en arrive à se demander s'il n'y a pas plus d'auteurs que de public. Et c'est facile en plus, c'est vrai, parce que la matière première que nous sommes, nous les auteurs, elle est totalement gratuite. Et c'est même le contraire d'ailleurs, parce que nous rapportons de l'argent. Ce sont nous, les auteurs, qui payons les emplacements. Et je vous assure que quelquefois, c'est relativement cher. Alors il suffit de faire miroiter une affluence soi-disant record, et chacun s'inscrit, persuadé qu'il va ainsi pouvoir diffuser ses écrits facilement. Mais comment voulez-vous, Gisèle, que les lecteurs qui font l'effort de se déplacer s'y retrouvent devant une telle pléthore de livres présentés? Comment voulez-vous qu'ils puissent échanger avec tous ces auteurs présents? Cela relève d'une mission impossible. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que, afin de ne pas repartir les mains vides, ils achètent un ouvrage, généralement, au dernier qu'ils vont rencontrer. Ils ont tout à fait oublié que au début de la manifestation, ils avaient discuté longtemps sur un livre qui leur avait plu et qu'ils s'étaient promis d'acquérir. Et je ne vous parle pas des salons organisés dans des lieux touristiques. Ces salons, effectivement, semblent promus à un grand succès par leur emplacement. Je ne citerai pas les lieux pour ne vexer personne. Mais c'est vrai que dans ces salons, il y a du monde qui passe. Oui, des touristes. Des touristes en fin de promenade qui visitent le salon comme ils ont visité l'église, le village, le sac à dos sur les épaules et les mains chargées de poches contenant des souvenirs, des spécialités culinaires, mais que nenni de livres. Et alors le comble de tout, c'est quand ces mêmes organisateurs se targuent d'avoir invité un auteur à succès. Le problème, c'est qu'il sera souvent le seul à dédicacer ses ouvrages. Et quelquefois même, alors là, c'est là que ça fait sourire, à des personnes qui n'ont jamais lu une seule ligne de ses livres. Mais notoriété oblige, ces gens-là pourront se targuer de posséder dans leur bibliothèque, très souvent artificielle, un ouvrage d'un tel ou d'une telle, dédicacé à leur nom. Ils ne savent pas, ces pauvres gens, qu'en ignorant les stands devant lesquels ils passent rapidement pour aller faire la queue et obtenir en plus un selfie avec la vedette du jour, ils passent à côté d'excellents livres, d'excellents ouvrages qui leur auraient été présentés avec amour et conviction, et que peut-être la dédicace qu'ils auraient eue ne se limiterait pas avec juste mon amitié. Alors vous me direz, Gisèle, pourquoi moi-même je suis organisateur de salon? Eh bien, d'abord, ce n'est pas moi, c'est quand même toute l'équipe de notre médiathèque. Et parce que nous avons une autre idée de l'image des salons. Nous pensons que ces manifestations peuvent être très utiles si elles sont organisées dans un tout autre esprit. Tout d'abord, il faut que le nombre d'auteurs invités soit limité. Je pense que 40, c'est un bon nombre et suffisant. Il faut en plus penser à une répartition équitable dans tous les genres littéraires, ceux qui vont du roman traditionnel, policier, fantastique, roman historique, mais aussi des livres documentaires, des livres photos, des bandes dessinées, des livres pour enfants, sans oublier la poésie, etc. Il y en a bien d'autres. Et c'est cela qui permettra à chacun de trouver ce qui l'intéresse, de s'attarder à discuter, de regarder les livres présentés avec les auteurs présents. Ainsi, on ne se retrouvera pas en concurrence avec 30 ou 40 personnes sur le même genre littéraire. Chez nous, il n'y aura jamais de tête d'affiche. Chez nous, il n'y a pas de lieu touristique. Chez nous, les visiteurs du salon viennent uniquement pour le plaisir de découvrir des auteurs que nous voulons en majorité régionaux. Chez nous, nous ne visons pas la quantité ni une affluence record, mais la qualité de l'accueil et de l'offre proposée. Croyez-moi, chacun s'y retrouve. Et si tout le monde faisait pareil, les salons du livre auraient une autre image.
Eh bien, pour un coup de gueule, c'est un coup de gueule.
Oui, mais ce n'est pas le seul. Oui, il y en a un autre. Cette fois-ci, c'est en tant qu'auteur, auteur auto-édité, petit auteur auto-édité, que je vais le pousser à l'encontre des grandes maisons d'édition et des grandes librairies. Il est triste de voir où l'on en est arrivé avec cette politique des grands éditeurs français dont le seul objectif principal est la rentabilité et qui cible d'abord un succès commercial avant de s'occuper vraiment d'un succès littéraire. On en a une preuve justement et c'est pour ça que je pousse ce coup de gueule. La preuve vient d'en être donnée avec la sélection au prix Renaudot 2018 d'un livre de Marco Coscas qui s'intitule « Bande de Français ». Ce livre a été refusé par tous les grands éditeurs qui font la pluie et le beau temps sur les lectures de nos concitoyens, que ce soit les Grasset, Gallimard, Albin Michel et bien d'autres. Résultat, notre auteur a été contraint à s'auto-éditer chez Amazon, avec un nom d'éditeur ironique d'ailleurs qu'il a choisi, Galli Grassud. Vous aurez compris le jeu de mots. Et alors là, maintenant, grande levée de boucliers des libraires, le titre n'étant pas disponible à leur grand désespoir ailleurs que chez Amazon. On comprend tout de suite que l'intérêt est encore commercial. Que de ventes ratées pour ces pauvres libraires dans la perspective où le livre remporterait le prix Renaudot. Je tiens quand même à préciser une petite chose. Cet auteur n'a peut-être pas choisi la meilleure façon d'éditer son œuvre. En effet, il existe sur le marché d'autres maisons d'édition qui permettent l'auto-édition, mais qui, elles, diffusent en librairie les titres de leurs auteurs. Par exemple, BOD, pour n'en citer qu'une. Tout cela prouve tout simplement qu'un grand nombre d'auteurs talentueux sont ignorés ou rejetés par les magnats de l'édition et que le public, à cause de cela, passe souvent à côté de belles lectures, uniquement pour un problème de mercantilisme. Heureusement, il reste encore quelques librairies indépendantes qui prennent le risque, entre guillemets, s'il en est un, de proposer dans leur rayon des auto-édités. Comme par exemple, vous avez la librairie La Trappe-Rêve à Muret, qui met en avant ces auteurs-là. Ou tout simplement, plus proche de nous, vous avez U-Culture à Noé. D'où, encore une fois, l'importance des vrais salons du livre qui sont consacrés à ces auteurs-là, qui permettent de les faire connaître.
Eh ben, Luc, un gros bouillon. Mais coup de cœur littéraire, c'est la rentrée.
Oui, c'est la rentrée, mais c'est un peu tôt pour la rentrée. C'est parce que, si vous voulez, les Grands Prix sont en train de sélectionner les ouvrages, etc. Les auteurs sortent petit à petit les livres. Et je pense que le mois dernier, je vous avais dit que je vous présenterais la rentrée littéraire. Mais Je préfère la reporter d'un mois, c'est un peu tôt.
Oui.
J'ai profité de ce report, entre guillemets, pour vous donner des coups de cœur sur des livres anciens, des livres qui n'ont pas été récemment publiés, et en plus des livres que j'ai découverts par le plus grand des hasards. Je vais vous expliquer comment. Le premier, il s'appelle « Les chemins de pierre ». Il a été écrit par Martine Provis. Voilà comment je l'ai découvert. Pendant les vacances de cet été, nous avions loué un petit gîte charmant au creux de la vallée de la Célée dans le Lot. Le village s'appelait Corne. Et ce village, il a une particularité, ou on peut appeler ça une malchance pour les habitants, de se trouver dans une zone blanche totale. C'est-à-dire sans aucune connexion pour les portables. Et alors en plus, le gîte dans lequel nous étions n'était pas équipé de Wi-Fi. En résumé, nous avons passé plusieurs jours complètement coupés de nos contacts habituels. Et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu désemparés. En plus, comme je n'avais pas prévu cette situation, je n'avais même pas pris la peine d'emporter de la lecture avec moi. Or, il y avait dans le salon une petite étagère sur laquelle se trouvaient quelques livres. Mais ceux-ci, ils étaient un petit peu à l'image du cadre, c'est-à-dire du siècle dernier. Bon, en les feuilletant, j'ai fini par en trouver un qui n'était pas trop ancien, puisque l'édition datait de 1992. Et, n'ayant rien d'autre à me mettre sous les yeux, j'ai décidé de m'y plonger. Eh bien, vous ne me croirez pas, Gisèle, mais je ne l'ai pas posé avant de l'avoir terminé. Vous comprenez pourquoi j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui. Alors d'abord, un petit mot sur cet auteur. C'est une dame, Martine Provis, qui est née le 29 septembre 1923. Et je suis incapable d'ailleurs aujourd'hui de vous dire si elle est toujours de ce monde ou si elle n'y est plus. Je n'ai pas trouvé d'informations sur elle. Martine Provis raconte son histoire, ce qu'elle a vécu. Elle a eu une enfance difficile avec des privations, des coups, de l'humiliation. C'est ce que lui ont fait supporter ses parents adoptifs. Dès l'âge de 4 ans, à partir du moment où elle a quitté une nourrice bienveillante, et jusqu'à l'âge de 20 ans. À cet âge-là, elle s'est enfuie pour retrouver sa sœur, Alberte, qui elle aussi, avec leur frère Pierre, a reçu les mêmes traitements que Martine. Voilà le livre dont je vous ai dit, elle raconte une partie de sa vie. Elle se fait appeler Marthe dans ce livre. Marthe sort d'une enfance martyre. Ses parents tortionnaires l'ont séquestrée, brimée, torturée pendant 20 ans. Aujourd'hui, elle a enfin réussi à s'échapper, à fuir Paris, bien décidée à prendre sa revanche sur la vie. Avec à peine quelques sous-vêtements, pieds nus, dans des sandales deux fois trop grandes, elle va s'aventurer dans un monde qu'elle ne connaît pas, car elle n'a jamais, jamais côtoyé le monde extérieur. Elle sait d'ailleurs à peine lire. Elle ignore tout, absolument tout de la vie, et celle-ci ne va pas lui faire de cadeau. Elle a échappé à ceux que l'on appelle « monsieur » et « madame », qui étaient ses soi-disant parents adoptifs. Mais elle va se trouver confrontée à un monde cruel et sans cœur. Elle va dormir dans la rue, à la recherche désespérée d'un travail. Et même si parfois la vie lui réservera quelques petits bonheurs et quelques petits moments de joie, sa candeur et son insouciance la conduiront sans cesse vers de mauvais chemins, vers de mauvais choix. Heureusement pour elle, Marthe possède une qualité, la résistance, aussi bien physique que morale. Et elle ne se laissera jamais abattre, persévérera et finira par obtenir ce qu'elle recherche avant tout, la reconnaissance en tant qu'un être humain respecté. C'est un livre très dur, d'autant plus dur que cette histoire est entièrement vraie. Beaucoup d'entre nous, je peux vous l'assurer, n'auraient pas supporté le quart de ce que Marthe a vécu. Excusez-moi, c'est la même. J'ai été impressionné par son courage, sa ténacité. C'est une bonne morale pour nous, commun des mortels, nous qui n'avons quasiment pas connu la souffrance dans notre enfance. Profitons de ce que nous avons et arrêtons de nous plaindre. Pour info, il existe non pas une suite à ce livre, mais un début, La soupe aux cailloux, qui nous raconte justement cette enfance martyre de ses 4 ans jusqu'à 20 ans. Pour le second ouvrage que je veux vous présenter, c'est encore une fois le hasard qui m'a conduit vers lui. Mon petit-fils est venu passer la journée à la maison il n'y a pas très longtemps, et comme il est un peu tête en l'air à son habitude, il a oublié quelque chose. Cette fois-ci, il s'agissait du livre qu'il était en train de lire sur les conseils de sa prof de français. d'abord intrigué par le nom de l'auteur, beaucoup plus connu pour ses albums de slam récompensés d'ailleurs deux fois aux Victoires de la musique, je commençais à le feuilleter. Et encore une fois, je me suis laissé embarquer et je l'ai lu d'une seule traite. Voici l'histoire. Il y a une quinzaine d'années, en chahutant avec des amis, le jeune Fabien, qui n'a pas encore 20 ans, fait un plongeon dans une piscine. Il heurte le fond du bassin, dont l'eau n'est pas assez profonde, et se déplace les vertèbres. Bien qu'on lui annonce qu'il restera probablement paralysé à vie, il retrouve peu à peu l'usage de ses jambes après une année de rééducation. Avec patience, ce grand échalas d'un mètre 94 nous donne une sacrée leçon de vie, nous, les bien portants, qui nous plaignons souvent pour des broutilles. N'est-ce pas, Gisèle ? La réussite du bouquin vient dans le fait qu'il n'est jamais larmoyant. Bien au contraire, il est bourré de vie, d'envie, comme si l'injustice d'être victime d'accidents de la vie décuplait les forces pour espérer, dans la plupart des cas, un avenir un peu plus décent. Son livre, c'est aussi un formidable hommage au personnel hospitalier qui, dans la majorité des cas, mérite un sacré respect et une considération que malheureusement leur statut et leur salaire ne leur donnent pas. Ils portent un regard rarement décrit sur le handicap, où d'ailleurs l'humour et la dérision sont des alliés. Ils donnent en même temps une bonne claque à nos idées reçues. Il sait la chance qui est la sienne d'avoir réussi ce qui semblait impossible et de rappeler que personne n'est à l'abri de vivre cela. En conclusion, je vous dirais que Fabien Marceau écrit comme grand corps malade slam. Il réussit la prouesse de décrire l'horreur absolue en y ajoutant des touches d'humour et jubilatoires formules qui sont en même temps poétiques. Le livre s'appelle « Patient » et il a été écrit par grand corps malade, c'est-à-dire Fabien Marceau.
Eh bien, joli coup de cœur littéraire que vous nous avez proposé pour ce mois d'octobre. On va passer à l'actualité.
L'actualité du mois d'octobre, c'est, comme je vous l'avais donné dans les précédentes émissions, la fameuse soirée café-théâtre, le Père Noël est une ordure. Cette année, c'est le 27 octobre et cette soirée sera placée sous le signe du rire avec la reprise d'un grand classique par la Zoubadour Compagnie. C'est une pièce de théâtre française créée en 79 par la troupe du Splendid, adaptée au cinéma en 82. Vous avez deviné, je veux parler du Père Noël est une ordure. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ou qui auraient oublié, voici un tout petit résumé de la pièce. Le soir de Noël, à la permanence téléphonique parisienne de l'association SOS Détresse et Amitié, des bénévoles sont perturbés par l'arrivée de personnages marginaux et parfelus qui provoquent des catastrophes en chaîne. Un petit mot sur la troupe, la Zoubadour Compagnie, c'est une émanation de l'atelier théâtre La Compagnie à Bistot, que nous connaissons bien car ils sont déjà venus chez nous à deux reprises nous présenter leur création, Funérarium et Les Voisines. Et la mise en scène est cette fois encore réalisée par Nathalie Albar. Et d'ailleurs, dans la troupe, nous y retrouverons plusieurs comédiens qui officient aussi dans la compagnie à Bistot. Ils vont nous interpréter des personnages qui aujourd'hui sont devenus légendaires. Pierre Mortez et Thérèse, les permanents de SOS Détresse Amitié. Leur fameux voisin bulgare, M. Preskovitch. Il y a aussi Katia, le travesti homosexuel. L'inoubliable Zézette et son fameux fiancé miteux déguisé en Père Noël. Sans oublier la pauvre Madame Musquin, la présidente de l'association, à qui il va arriver bien des déboires. À partir de 19h, les spectateurs pourront retrouver l'ambiance café-théâtre des années précédentes dans notre salle calfeutrée, autour de petites tables rondes, et pourront se restaurer avec des assiettes de tapas et des cafés gourmands. Hé, Gisèle, ils pourront peut-être même goûter aux célèbres pâtisseries du fameux monsieur Preskovitch. Vous connaissez les fameux doubichous, ceux qui sont roulés à la main sous les aisselles. Et en plus, il y aura le cloug au marron, la fameuse bûche de Noël qui, paraît-il, dégage une odeur nauséabonde, mais qui est colmatée avec du schputz. Vous ne pouvez pas rater ça. Venez déguster le fameux café gourmand de Père Noël est une ordure. L'entrée est fixée à 5 euros et les réservations sont possibles auprès de la médiathèque ou même carrément du secrétariat de la mairie 05 61 87 83 32. De toute façon, retenez bien la date, le samedi 27 octobre au complexe des Pyrénées de Lafitte-Vigordane à partir de 19h pour partager un bon moment de détente avec la Zoubadour Compagnie dans le Père Noël est une ordure. Et puis, venir découvrir et goûter ces fameuses spécialités.
Un autre moment, je veux dire, qu'il ne faut surtout pas manquer, bien qu'il y en aura beaucoup partout, c'est le centenaire de l'armistice de 1918. C'est la quatrième année donc que l'on va, avec laquelle on va clôturer cet anniversaire malheureux.
Oui, Gisèle, là, ça sera juste un petit mot, parce que je vous en reparlerai le mois prochain, puisque ça se déroule au mois de novembre. Vous pouvez déjà noter que ça se passera, bien sûr, au moment du centenaire de l'armistice, le 11 novembre, et qu'une exposition va être organisée par la médiathèque de Lafitte, en association avec une généalogiste qui s'appelle Annette Rampon-Bourguignon. Et en plus, je dois le rajouter, puisque les élèves de l'école Michel Colucci ont aussi travaillé et présenteront un travail sur des photos qu'ils ont récupérées de cette guerre de 14-18. Je tenais à lancer encore une fois un appel à toutes les personnes qui posséderaient des documents, qui posséderaient des objets qui concernent cette période et plus particulièrement, bien sûr, autour de Lafitte-Vigordane et à propos des malheureux soldats dont le nom est gravé sur le monument aux morts. Alors si ces gens-là ont quelque chose à nous communiquer ou à nous prêter, n'hésitez pas, venez les déposer en mairie et rassurez-vous, après avoir été scanné, photographié ou exposé, l'entière totalité de ces objets et de ces documents vous sera restituée. Je rappelle juste rapidement les deux autres dates à retenir pour que vous les notiez bien, même si elles sont dans les mois à venir. Le 25 novembre, notre traditionnel marché de Noël des artisans et des créateurs. Ce sera la 9e édition. Et en plus, comme il y a l'approche des fêtes de fin d'année, je pense que vous n'hésiterez pas à venir y faire un tour pour trouver des idées originales pour vos cadeaux de Noël. Les enfants pourront aussi profiter de balades en poney, de jeux traditionnels et bien sûr de la fameuse photo sur les genoux du bonhomme en rouge. Un petit appel aussi s'il y a encore des exposants, mais je dis bien ce sont des artisans et des créateurs et pas de revendeurs. Et pour cela, eh bien, vous contactez rapidement le secrétariat de mairie. Je redonne le numéro 05 61 87 83 32.
Et puis alors la grande fête dont vous avez parlé dans les coups de gueule, c'est le salon du livre Lafitte en livre.
Un vrai salon du livre. Un vrai salon du livre dédié aux auteurs, dédié aux vrais lecteurs. Donc celui-là, il se passera le 16 décembre, c'est Lafitte en livre 2018. Alors on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Les emplacements, enfin le nombre d'auteurs est déjà quasiment clos, puisque je vous ai dit, comme tout à l'heure, pour nous, 40, c'est très bien. D'ailleurs, on va peut-être même s'arrêter à 35, on est en train d'en parler. Et on a essayé d'ouvrir au panel un maximum de spécialités et de différents genres littéraires. Alors cette année, en plus de l'an dernier, il y aura toujours les mini-conférences, mais on va organiser des ateliers, et notamment, on a un atelier, je pense, qui va être original, puisque c'est un atelier sur l'apprentissage des hiéroglyphes, qui sera destiné aussi bien aux enfants qu'aux adultes, et ça par une éminente personne qui s'appelle Amandine Marchal, qui est docteur en égyptologie et qu'on a la chance d'avoir pas très loin à Toulouse. Et bien sûr, il y aura toujours la petite restauration, placée sous le signe de la littérature, encore une fois, avec des idées originales qui vous sera proposée. Et maintenant, notre coup de cœur musical du mois.
Dimanche soir, de Grand Corps Malade.
Bah oui, après ce que j'ai dit tout à l'heure sur son livre, sa vie, oui, sur sa tranche de vie, comment ne pas finir par vous donner l'autre version, l'autre visage de ce garçon qui, est, je pense, est un de nos grands poètes d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'en ai fait mon coup de cœur musical. Et je pense que vous aussi, sa voix grave, profonde, elle ne vous laissera pas indifférent. Et encore plus, si vous avez lu son livre juste avant. Donc, son dernier album s'appelle Plan B. Il vient de sortir. Et dans cet album, il y a un titre que je trouve magnifique qui s'appelle « Dimanche soir ». Bah écoutez, Gisèle, je vous remercie de nous avoir permis de réaliser cette nouvelle émission. Je remercie les auditrices et les auditeurs de nous avoir écoutés encore une fois. Et je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien, le mois prochain pour d'autres coups de cœur. Peut-être aussi d'autres coups de gueule, mais surtout des conseils de lecture et de découverte. Avant de se quitter, écoutons donc ensemble ce petit bijou qu'est Dimanche soir.
À bientôt.
À bientôt.
Parce qu'avec toi le temps a pris de nouvelles dimensions, que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction, parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar, parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir, parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments, et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment, parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop, et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans c'est tellement long, et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux, parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu, parce qu'on s'est tant rapproché que nos souvenirs se ressemblent, parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble, parce que je sais que le lundi je vais te parler et te voir, parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire rien n'est écrit mais tout sonne comme une évidence. Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Parce que je te chambre sur tes manies, mais que je pourrais plus me passer d'elle. Parce que je me moque de tes défauts, mais qui me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce qu'on est libre quand on est fort et plus fort quand nos liens se soudent. Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux du coude. Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes. Et qu'à chaque fois qu'elles brillent, c'est nos débuts qui se rallument. Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux. Et que c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux. Parce que 120 mois plus tard, je viens encore juste de te rencontrer. Parce que tu es mon plan A, et que tu seras aussi mon plan B. Après 10 ans d'un beau voyage où je me rappelle de chaque seconde. Après 10 ans qui ont vu naître les 4 plus beaux yeux du monde. C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment. Et sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé le plus beau thème. Je n'ai plus peur du dimanche soir.
Une émission proposée par l'école des mots Marie Lannelong, médiathèque de Lafitte-Vigordagne.
Retrouvez-nous le deuxième mardi de chaque mois à 18h et le dimanche qui suit à 10h30 sur les ondes de Radio Galaxie 98.5 FM.